सह dans les derniers événements, Sarah, c'est la grande absente. Il se passe quelque chose d'énorme entre Abraham et Yitzhak. Sarah n'est pas là. Et non seulement Yitzhak n'est pas là, mais à l'époque, Abraham ne lui a pas dit. Abraham ne lui a rien dit. Parce que on dit que c'est le Satan qui est venu lui dire. Et le Satan, il est venu lui dire, Abraham était en train de faire la shrita de son fils. Et certains disent que ça l'a ébranlé, mais ce qui l'a tué, c'est qu'ensuite on est venu lui dire, non, il ne l'a pas fait. L'aller-retour, si vous voulez, c'est ça qui l'a ébranlé. D'avoir entendu d'abord qu'il l'a fait, ensuite qu'il ne l'avait pas fait. C'est Satan de lui dire quelque chose qui n'était pas encore fait. Et bon, il y a d'autres explications. Maintenant, quant au fait que Sarah, elle meurt ici, elle meurt bien plus tôt qu'Abraham, alors certains disent que ça vient d'un principe de la Torah. Vous vous souvenez quand Hachem avait dit à Abraham Avinu qu'il aurait un descendant, alors Abraham, d'abord au tout début, Hachem lui a annoncé monts et merveilles, la terre, etc. Il a dit, mon héritier c'est mon intendant, de quoi tu me parles de descendance, je rien, je... C'est fini, je suis. J'ai fait un certain travail, et puis c'est tout, ça s'arrête là, puisque je n'ai pas de descendant, c'est mon héritier qui va continuer. En soi, on pourrait se demander d'ailleurs en quoi est-ce que c'est important, d'accord, il préférait que ça soit son fils, mais au fond, si son héritier c'est Eliezer c'est son alter ego. D'accord, c'était Mamash. On dit qu'il était. Il puisait l'eau en même temps que son maître. Pourquoi. En quoi est-ce que c'est si terrible? Est-ce qu'il faut que ça. C'est une question qu'on peut se demander, bien sûr. On a tous envie que les choses passent par nos propres enfants. Mais en réalité, les vraies valeurs, finalement, ok, c'est pas nos enfants, mais si ces valeurs, elles perdurent, est-ce que c'est un si grand malheur? Quand il lui dit, tu me fais des promesses. Okay. Et Abraham lui-même, après, quand Hachem lui annonce qu'il aura un fils, alors il dit, mais pourquoi faire des Nissim à deux vieillards? Il y a Ishmael, fait que Ishmael devienne un type bien. J'ai un descendant. Il est clair que ce descendant-là, n'est pas son descendant, parce qu'Hachem lui dit non, c'est avec Sarah. Et quand Abraham a eu cet enfant avec Agar, alors Sarah lui a dit, quand Hachem t'a annoncé un enfant, il t'a annoncé pas de rien, tu aurais dû dire, je n'ai pas d'enfant avec ma femme, Sarah. Au lieu de dire, je n'ai pas d'enfant. Tu aurais dû me mentionner aussi. Parce que tu ne m'as pas mentionné que tu as un enfant avec Agar et pas avec moi. Et c'est marqué que Sarah lui en a voulu, et le Midrash dit qu'elle l'a passé à tabac. Ok, qu'elle l'a griffé, elle l'a frappé, etc. On n'a pas le rapport, mais bon, c'est marqué une fois, il n'y a pas de doute. Elle l'a fait passer à tabac. Mais seulement. Elle lui a dit, Ishpot Hashem beni uvenach, qu'Hashem juge entre toi et moi. Et ça s'appelle appeler le jugement sur l'autre. Et ça, il y a une halakha qui dit que si tu appelles le jugement sur l'autre, tu seras jugé là-bas. Et comme personne ne peut tenir devant le jugement, quelque part, appeler un jugement d'Hashem sur l'autre, c'est quelque chose que de l'ordre d'Ali, quoi. Ça veut dire, c'est un truc, et tu demandes à Hachem d'intervenir, il ne faut pas. Il ne faut pas faire ça, et c'est pour ça qu'elle meurt avant. Elle meurt avant parce qu'on a fait. Elle était une salakette, mais personne ne tient devant le jugement. Donc si tu appelles le jugement, c'est toi qui. C'est toi qui vas mourir avant. C'est donc la raison pour laquelle Sarah meurt bien avant Abraham. On peut aussi dire qu'il y a deux temps dans la vie d'Abraham. Il y a le temps principal où il est le patriarche, mais après la Akeda, il descend, et je crois vous avoir dit que Yitzhak ne descend pas en même temps que lui. Yitzhak il descend de son côté et lui il descend de son côté. Et lui il va récupérer les serviteurs, Eliezer et Ishmael qui étaient au bas de la montagne avec l'âne. Mais Yitzhak il est parti de son côté. Et à partir de ce moment-là, le patriarche du clan d'Israël, c'est Yitzhak, c'est plus Abraham. C'est plus Abraham, et c'est très clair, puisqu'Abraham va ensuite épouser Ktoura, qui est peut-être Agar ou peut-être pas, mais peu importe, et il va avoir des enfants avec elle. Et ces enfants-là, c'est ces enfants que Hachem a dit à Abraham qu'il aurait. C'est marqué qu'Abraham, Hachem lui a dit, tu seras Abhamon Goïm, le père d'une multitude de peuples. Donc en étant le père d'une multitude de peuples, différent du peuple juif, il n'est pas seulement le père, le patriarche du peuple juif, mais il y a toute une partie de sa vie, la deuxième partie de sa vie, où en fait, il va donner naissance et il va s'occuper d'enfants qui ne sont pas des juifs. Bon, qui a au moment de l'héritage, il va les dédommager, il va les envoyer vers. C'est pas go west, mais c'est go east, ça veut dire les envoyer à l'est. Et certains disent que c'est les peuples de l'est, les peuples de l'Asie, les peuples de l'Asie, les descendants d'Abraham. Donc ça c'est des élucubrations peut-être, mais. Donc, si vous voulez, il y a deux temps, et évidemment qu'il ne pouvait pas être marié à Sarah et produire des enfants qui ne sont pas des enfants du peuple juif. Sarah, elle n'est pas destinée à produire des enfants pour d'autres peuples. Lui, oui. Si vous voulez, d'une certaine manière, la semence d'Abraham, elle va se répandre dans le monde. Mais pas par le biais de ça. C'est peut-être Agar, peut-être c'est une tierce personne qui s'appelle Ktoura, qui a un nom qui ressemble à Ktoret, c'est-à-dire l'encens, la perfection, la chose. Le Ktoret, c'est dans les korbanot, dans ce qu'on apporte à Hachem, c'est le plus éthéré, puisque c'est seulement une odeur. D'accord, le Ktoret, c'est. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de farine, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de mamachout, il n'y a pas d'épaisseur. C'est seulement un nuage d'odorant. Donc c'est la chose la plus éthérée, si vous voulez, et c'est ce qui fonctionne avec la seule. Avec le seul des cinq sens qui n'a pas été endommagé au moment de la faute d'Adam Arishon. Remarquez dans la Torah que. Chava, elle a senti le fruit et qu'il sentait bon. Il avait un bon goût, manger, vu, beau à voir, etc. Mais les autres, bon, il y avait la transgression, tu as entendu, tu n'aurais pas dû entendre ce que Hachem a dit, etc. Mais il n'y a pas de l'odorat n'était pas partie prenante dans la faute d'Adam Arishon. C'est ça que c'est la chose la plus éthérée qui soit. En tout cas, Sarah, c'était quelqu'un, comme on va voir, absolument extraordinaire, mais elle n'avait pas de dimension universelle. C'est pas comme Abraham Avinu. Alors elle en est morte. C'est intéressant. Hein. Est-ce que c'est marqué que Sarah est morte? Où c'est marqué? Ah non?
Deuxième verset.
Non, mais là on nous dit que qu'elle est morte, elle a vécu 127 ans. Mais où est-ce que, avant de nous dire qu'elle a vécu, etc., commencer à une parachassure, c'est marqué, la Tamot Sarah Bekriya Tarba, c'est souvent marqué après. C'est-à-dire, on commence par dire qu'elle a vécu 127 ans, puis ensuite on dit qu'elle est morte, à Kriya Tarba, puis on fait un flashback sur sa vie, quoi. Bon, un petit peu. C'est ce qu'elle est. Voilà. La question de savoir, c'est qu'est-ce qu'elle faisait à Kriyat Arba. Kriyat Arba, c'est Hebron. Abraham et elle, ils habitaient à Beersheba. Alors qu'est-ce qu'elle est allée au marché à Hebron? Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? On ne sait pas ce qu'elle faisait là-bas. Elle était là-bas pour y mourir, en fait. Pour que sa sépulture soit à Hebron. On va être enterré là-bas à Kriyat Arba. Kriyat Arba qui va s'appeler Kriyat Arba, hein, à cause d'elle, et d'Abraham. C'est là où les quatre vont être enterrés. C'est à ce moment-là, c'est les quatre, c'est Adam et Chava et Abraham et Sarah. Tombe. C'est clair? Donc c'est pas du tout. C'est étrange, si vous voulez, la façon dont, dans l'histoire, on aurait dû le dire à un certain moment, bah, Tamot Sarah. Puis ensuite, Bayou, Haye Sarah, etc. Donc, dire d'abord l'âge, enfin, la vie, quelque chose sur la vie de Sarah, qui laisse bien à comprendre qu'elle est terminée, sa vie, seulement, Tamot, Sarah, Be Kriyat Arba, Hebron, Beretz Knan, et Abraham, Vayavo, Abraham est venu, l'Ispod, le Sarah, pour faire un Esped, éloge mortuaire, donc funéraire, et pour la pleurer, l'Ifkota. Donc il est venu. Juste répéter que Sarah était très très grande, c'était une grande prophétesse, et là, en prophétie, elle était plus grande qu'Abraham. Ça se discute, le Zohar il veut rétablir les choses, mais a priori elle est plus grande. Il y a une question. D'abord, elle est morte à Kriyat Arba. On dit qu'il y avait, je vous ai dit ici quatre personnages, mais chez les. Non, sans référence aux juifs, quoi, si vous voulez, il y avait quatre géants qui sont enterrés là-bas. Ils étaient là-bas, à cet endroit-là, donc ça s'appelle Kriyat Arba. Rachidon, c'est Arkiman, Sheshai, Talmai et Aviel. Autre chose, Anshem Arba Zugot. On peut aussi dire, si on regarde la totalité, les quatre pères qui vont être enterrés là-bas. Donc, Adam, avec leur femme. Adam, Abraham, Yitzhak et Jacob avec Léa. Rashi dit que la smichut à parshiot, le fait de mettre les parshiot côte à côte, la mort de Sarah et à l'Akeda, ça vient dire qu'effectivement, c'est à la suite de l'Akeda qu'elle est morte. Elle n'est pas morte pour autre chose, elle est morte de la suite en question. On parle de l'enterrement, on dit qu'Abraham est venu pour faire son éloge il est venu la pleurer. Il manque quelqu'un à cet enterrement, non? Il trinque. Alors, moi je vous ai dit qu'Yitzhak il est descendu, certains disent comme ça. D'autres disent qu'il est, on ne le dit pas, mais il est descendu avec Abraham, et Abraham il l'a amené à la Yeshiva Shemed. Cette Yeshiva où Yaakov allait pendant 14 ans, en quittant son père, Yitzhak était là-bas. Il y avait une Yeshiva qui était tenue par Shem, le troisième fils de Noach, et son petit-fils qui s'appelait Eber. La question qu'on peut poser, c'est, j'ai toujours voulu connaître le cursus de cette yeshiva. Qu'est-ce qu'on enseignait dans cette yeshiva? La question, c'est, on peut dire, qu'est-ce que Yitzhak pouvait apprendre dans cette yeshiva qu'il ne pouvait pas apprendre chez Abraham? Qu'est-ce que Yaakov pouvait apprendre finalement dans cette yeshiva qu'il ne pouvait pas apprendre chez Yitzhak? Certains disent, il y a des Mefarshim qui expliquent, que dans cette yeshiva, on apprenait la Torah du Galout, la Torah de l'exil. Donc ça va très bien pour Yaakov, parce que Yaakov, il avait besoin de connaître la Torah de l'exil, mais Yitzhak, il avait besoin de connaître la Torah de l'exil, puisqu'il n'avait pas le droit de sortir de Eretz Israël. Comme Yitzhak, c'est une Ola, il a un statut de Ola, une Ola n'a pas le droit de sortir de Eretz Israël. Il y a une Kedusha qui fait qu'il ne peut pas sortir de l'Eretz Israël, qui est la raison pour laquelle ce n'est pas lui qui est allé chercher sa femme. Sinon, évidemment, c'est lui qui aurait dû y aller. Mais comme il ne peut pas sortir de l'Eretz Israël et qu'il fallait la chercher en Mésopotamie, il fallait envoyer quelqu'un d'autre. Mais il croit qu'il n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. C'est un peu étonnant. Je veux dire, surtout quand on voit par la suite l'attachement d'Yitzhak à sa mère. On a du mal à imaginer que Yitzhak ne vienne pas à l'enterrement, enfin ne soit pas là à l'enterrement de sa mère. Plus souvent, peut-être on ne l'a pas laissé. À la limite, il faut savoir quand est-ce qu'il va apprendre que sa mère n'est plus. Est-ce qu'en même temps qu'Abraham l'a appris, on a dû l'envoyer dire à Abraham, il t'a Beersheba, Abraham. Il est venu de Beersheba pour être maspid, sa femme. On ne sait pas pourquoi elle était là, mais lui, il a dû venir pour être maspid, et a priori, la yeshiva de Shema Ever, Ever c'était le roi de Yerushalem, enfin de Shalem, c'est-à-dire c'est Jérusalem. À la limite, venir de Yerushalem à Hebron, c'est plus proche que de venir de Beersheba à Hebron. Donc il aurait pu venir. C'est pas que c'était trop loin. Ou... c'est une question. C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Pourquoi il n'est pas venu? Ici, Abraham va dire quelque chose qui se célèbre. Abraham Abinu veut enterrer Sarah. Mais à cet endroit-là, ils sont considérés comme des étrangers. Et pour les étrangers, dit Chazal, on avait prévu la fosse commune. Et Abraham, il ne veut pas mettre Sarah dans la fosse commune. Et il dit, je veux une tombe, je veux un caveau. Je veux l'enterrer et pas la mettre dans la fosse commune. Alors il a repéré cette Maratha Marpella, lui visiblement il a compris de quoi il s'agissait, les autres probablement ils ne savent pas de quoi il s'agit, sinon ils ne l'auraient pas vendu, probablement ils auraient fait des problèmes, ils ne savent pas la valeur de cette Maratha Marpella, ils ne savent pas que la dame y est enterrée. Et il veut cet endroit-là. Il a repéré ça. Et immédiatement, il va parler aux gens. Et il leur dit cette phrase très célèbre, « Guerre de Tosha, Banofi, Imachem ». Littéralement, je suis un étranger résident avec vous. Nous lit « Achuzat Keber, Imachem ». donnez-moi un caveau et je vais enterrer mon mort. Et ils ont répondu, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince divin parmi nous, tu peux choisir le tombeau que tu veux, le caveau que tu veux, personne ne te refusera le caveau. Alors il s'est prosterné devant eux, et ok, si vraiment vous êtes aussi généreux, et très diplomate, et vous êtes d'accord de me laisser enterrer mon mort, alors allez parler à Ephron Ben Sora, qui est le propriétaire de l'endroit que je veux acheter. Et qu'il me donne cette caverne, au bout de son champ, et je paierai le montant qu'il demandera. Ephron, il était au milieu de ces gens, et il répond aux gens des gens, non, écoute-moi bien, le champ que tu demandes, je t'ai déjà donné, c'est bien sûr, c'est acquis. Et la caverne que tu demandes qui va avec, je te l'ai donné. Aux yeux de tout mon peuple, je te l'ai donné, enterre ton mort. Abraham se prosterne devant les gens, et il dit à Ephron, aux oreilles de tout le monde, il dit, maintenant, si tu veux bien m'écouter, j'ai mis l'argent je pose l'argent du champ, prends-le. Tu l'auras pris, j'enterrerai mon mort. Alors Ephron lui dit, non, écoute-moi, c'est un pays de une terre de 400 shekels d'argent entre toi et moi. Ça vaut pas la peine d'en payer, d'en parler. Je te le donne, évidemment. En passant, il a dit le prix. Et le prix est 400 dans la Torah, ça veut dire toujours au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alors 400, c'est les quatre dimensions du plan. Parce qu'ils n'ont pas de coordonnées négatives, donc il faut le nord, le sud, l'est et l'ouest, en quatre dimensions, quatre, etc. Et donc, c'est, à la limite, il lui a vendu, on peut acheter toute la terre avec ces 400. Abraham, il a bien compris. Et il lui a donné cet argent, c'est marqué, envers la sophère, c'était en monnaie, comme on dit, sonnante et trébuchante. C'est-à-dire, toutes les pièces étaient des bonnes pièces, qui résonnaient bien, etc., sur le trébuchet. Voilà. Et le champ, dès lors, avec la Maratha Martella, devant Mamré, etc., ce champ-là, il a été acquis par Abraham aux yeux et aux yeux de tout le monde, à tous les gens. Et ensuite, Abraham a enterré Sarah dans la Mara. On a toujours que Yaakov Asadé, le champ s'est levé. Le champ a eu une élévation du fait que Sarah y était enterrée. Vous voyez, c'est un champ qui, tout à coup, a pris de la valeur, même sentimentale, peut-être même financière. Voilà, fin de l'épisode de la mort et de l'enterrement de Sarah. Alors, quand il leur dit, je suis Yer Vetoshav, Anokhi Imachem. Ici, il dit deux choses. Des choses a priori contradictoires. Il dit guerre, je suis un étranger. Et Toshav, je suis néanmoins un résident dans ce pays. Alors, le Netziv et d'autres disent, il aura dit la chose suivante. En vérité, cette terre, elle est à moi. Elle me appartenait, je lui ai donné cette terre. On est en Eretz Kanaan. Mais il dit, je veux bien jouer le rôle de l'étranger. Je veux bien payer pour une terre qui m'appartient, à condition que vous me laissiez faire ce que je dois faire, ce que je veux faire. Si vous me laissez faire, je veux bien jouer l'étranger. Sinon, je suis tocha, je réclamerai mon dû, et je vous ferai la guerre, je vous chasserai. Il dit deux choses. En fait, certains disent que c'est la condition du peuple juif en permanence. On est à la fois étranger et à la fois on est de plein pied, plein droit. Mais à la limite, je dirais, c'est comme si on disait aujourd'hui, dans le langage d'aujourd'hui, vous voulez mettre un drapeau palestinien là, mettez, j'ai affaire d'un chiffon. C'est un chiffon, vous mettez un chiffon, enfin, je veux dire, quelle importance a-t-il. Mais je suis chez moi. Vous voulez me faire jouer, vous voulez que je paye, que j'achète des terres, je sais comment je les fais. Ok, j'achète, c'est pas un problème. Je veux même le laisser dire que c'est un État palestinien. Ça ne me dérange pas. Si je peux faire dans cet État ce que j'ai à faire, si ça ne m'empêche pas de jouer mon rôle d'Israël sur la terre d'Israël, bon, il n'est pas encore Israël, mais bon. Si mais ça ne m'empêche pas de jouer mon rôle d'Abraham sur cette terre, alors ça ne me dérange pas que vous fassiez comme si vous étiez les propriétaires et que vous me fassiez payer un pied exorbitant pour quelque chose qui ne vous appartient même pas, qui m'appartient à moi. Alors, ça veut dire, en posant ça à Abraham, il montre ici ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire que cette notion d'être étranger ou pas, ça joue un rôle très important dans la Torah, le rôle des étrangers. Mais le problème, c'est, ok, s'il faut jouer un rôle d'étranger, même si en fait on n'est pas étranger, on peut, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça, c'est de l'argent, c'est du kavod, c'est. Prenez ça, prenez cet argent, prenez ce kavod. Mais l'essentiel, c'est que je puisse faire ce que j'ai à faire, que je puisse faire des mitzvot, etc. Que, si je peux faire ce que j'ai à faire sur cette terre, qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Évidemment, ce n'est pas aujourd'hui là, c'est ce que veulent le gouvernement comme le gouvernement israélien, mais en réalité, c'est ça le problème. C'est, ce qui est difficile, c'est qu'on n'arrive pas à prendre les choses de suffisamment haut. Alors, tu diras, tu rêves, je veux dire, c'est des rêves de dire tout pareil. A priori, ce sont peut-être des rêves. Mais bon, c'est ce qu'Abraham lui a enseigné. Il est sur sa terre. Il accepte de payer. Il dit pas, il aurait pu dire. Écoutez, je prends ça, je suis chez moi. Si ça vous plaît pas, je vous fais la guerre.
Et deux états, ça donne une légitimité.
Ça donne une légitimité. Oui, bon, enfin, si vous. Il est d'accord que vous jouiez le jeu de. Je vous laisse jouer votre jeu de. Quoi? Mais oui, parce que ça peut bien faire. Moi je sais, si moi je peux faire ce que j'ai à faire.
C'est-à-dire que c'est pas grave si le moment d'Abraham a un regard biaisé sur la possession de la terre par Israël, pas en tant que.
Non, mais il faut leur dire. On est au char. Je suis au char. Sachez que je ne sais pas du tout que je vous concède rien du tout, si vous voulez, de poison, de façon essentielle. Voilà, je paye pour quelque chose qui m'appartient. Alors je joue un jeu avec ça. Il les a laissés. Puisqu'il dit qu'il est au char, alors dit qu'il est au char, mais tape sur la table et dit alors. Donnez-moi ce champ, il est à moi. Et si vous n'êtes pas content, je vous fais la guerre.
Non, finalement, pourquoi ce n'est pas important de lever comme ça
Abraham Avinu, il pensait que ce n'était pas important. Il pensait que.
Il voulait surtout enterrer sa femme.
Il voulait enterrer sa femme, par exemple, et il s'en fiche si y a un drapeau autour. Il y a toujours un drapeau. C'est-à-dire, il fait au sens de. Vous voulez dire que vous êtes propriétaire, je vous reconnais comme propriétaire en payant, vous pouvez le dire, mais je vous dis en même temps que ce n'est pas vrai. Guerre et Toshav, je suis les deux. Je veux bien jouer ce jeu-là. Mais ne croyez pas que je vous ai concédé quoi que ce soit. Il y a beaucoup de lectures de ce Ger Toshav Anochi Imachem. Il n'a pas voulu leur imposer de, qu'il aurait pu leur dire que si vous refusez ça, alors je vous prends toute la terre. La guerre pour toute la terre, pas pour ce lieu-là. Il était chez lui. Rachid, il avait dit sur guerre votre chat, c'est pas soupe d'alette, oui. Il a dit, Ger me'eretz acheret, je suis un étranger au sens où je viens d'un autre pays. Ve'yashavti imachem, je me suis installé avec vous. Midrash Agada, im tirtzu, areini ger. Midrash dit comme ce que je vous dis, si vous êtes d'accord, si vous voulez, je veux bien jouer le rôle de guerre. Vimlav, ve'yetoshav, ve'etlen aminadin. Et sinon, je prendrai cette terre. Minadim, ça veut dire d'après la loi. Shamar Yakosh Boku, les Arachait et Netar et Sazot. Hachem m'a dit qu'il donnerait cette terre à ma descendance.
Quand on voit qu'avec Lot, quand même, encore, c'est-à-dire que toute la dispute qu'il y a eu avec Lot,
qui Abraham, l'héberger.
L'héberger. Oui. C'était parce que la terre n'était pas encore là. Hachem lui a dit qu'il nous la donnerait, mais ce n'était pas encore le moment.
Alors, c'est pas le moment. Ce qui n'était pas le moment, c'était. Il dit nous. Oui, mais là, c'est pas la même chose. Là-bas, l'héberger de Lot, il disait. Abraham n'était pas mort.
Oui, non, mais c'est
l'héritier. Il disait c'est nous, Lot, c'est l'héritier d'Abraham, donc. Du vivant d'Abraham, on prend déjà maintenant, on fait comme si c'était chez nous. C'est ça qui n'a pas marché.
Oui, on est déjà chez nous.
Ça, ouais, ça c'est celui qui. Oui, mais parce qu'ils voilà. Veulent l'avoir en Yerusha. Et la Yerusha, elles font. Il faut que le propriétaire meure pour qu'on puisse hériter. Alors, il n'était pas mort. Mais ici, c'est pas.
Mais ça va faire les peines. C'est pas
Abraham,
c'est ça,
c'est une chose qu'on pourrait dire. Mais bon, lui, il ne dit pas comme ça. Il dit, Hachem l'a dit qu'il sera ma descendance, et donc je prends. Et l'ena minadin. Pourquoi? Chez Amar, il y a que je vous pose un et un taré sazot. Ce que tu dis, c'est tout à fait juste. On pourrait contester, et on pourrait dire, et c'est quelque chose qu'on a vu chez Abraham Bichlal, Hachem ne fait jamais de promesse à Abraham. Les promesses, elles sont faites pour Zaracha. Comme si Abraham, il était seulement que le porteur de la descendance. Et d'ailleurs, il y a un Chazal qui dit que c'est Yaakov qui a sauvé Abraham. C'est parce que Yaakov a été capable d'être ce qu'il est qu'Abraham est sauvé. C'est-à-dire, lui, semble-t-il, parce qu'il y a une descendance d'Abraham, qu'Abraham est ce qu'il est. S'il n'avait pas eu de descendance, si sa descendance n'avait été que Esav, par exemple, et pas Yaakov, Abraham, il n'était rien du tout. Vous avez un courage complet. Regardez dans Vaïkra 25-23. 25, verset 23. Dit pasouk.
Le Père ne sera pas rendu pour l'éternité, car les païens, vous êtes des étrangers, des résidents de Dieu.
En fait, Hachem dit, c'est moi qui suis. La terre, elle est à moi. Vous êtes étrangers et résidents. Rashi, est-ce qu'il y a un Rashi là-bas? Celui qui l'a en main, il ne va pas le garder pour lui. Parce qu'en fait, vous êtes étranger et résident. Ça veut dire qu'en réalité, Hachem dit, d'une certaine manière, vous êtes quand même des étrangers sur cette terre. D'accord ? Alors ne vous prenez pas, ne jouez pas les propriétaires, et donc restituez la terre. Au Yovel, il faut la rendre à son propriétaire. Donc vous devez intégrer que vous n'êtes pas, mais par rapport à Hachem, vous n'êtes pas les propriétaires. Donc en fait, on nous a donné une terre, mais elle est à nous, mais tout le problème, c'est qu'il ne faut pas se conduire en propriétaire sur cette terre. La Torah ne nous permet pas de nous conduire en propriétaire. Exploitants, sauf, oui. Mais en fait, il y a une loi qui dit que la terre, elle appartient à Hachem, si vous voulez. Et par conséquent, vous êtes dépositaire de la terre, vous la cultivez, etc. Mais vous ne pouvez pas vous poser en propriétaire. C'est un rapport à la terre tout à fait particulier, je veux dire, c'est le contraire de tout ce que les peuples font avec leur terre. Ils se considèrent qu'ils sont propriétaires de la terre, ils font ce qu'ils veulent sur la terre, etc. Nous, on ne peut pas. Nous, on n'a pas le droit. Donc, Abraham, il a déjà expérimenté en quelque sorte. Là, il lui dit, c'est moi qui suis propriétaire, mais je vous laisse jouer votre petit rôle, etc. C'est une espèce de, comme si Abraham, il avait déjà dû expérimenter la condition de ne pas pouvoir se conduire comme propriétaire sur cette terre. Elle est à lui, mais... Et là, il dit, je suis d'accord. J'accepte cette idée-là, et donc, de l'avoir acceptée ici, ça permettra au Bnei Israël par la suite de l'accepter de façon générale par rapport au Yovel, par rapport à ce moment où normalement les terrains qui ont été vendus reviennent aux propriétaires patrimoniaux.
Oui, sauf que nos guerres ici, par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à Hachem.
Oui, non, bien sûr, mais c'est toujours l'expérimentation d'être guerre. Ça veut dire que tu es chez, à la fois chez toi, mais tu dois expérimenter de ne pas de te conduire comme si tu n'étais pas chez toi.
Et
Abraham commence tout de suite, je veux dire. Et dès qu'il arrive là-bas, sur cette terre,
il est en fatigue.
Oui. On pourrait tout de suite dire, d'accord. Dès qu'il arrive sur cette terre, on lui a tout de suite montré que, d'accord, tu es propriétaire, mais il y a une famine, alors tu ne peux pas rester. Bon, ça c'est la fin de. On a dit. Après le pasouk dans le premier chapitre du 24, le premier verset du 24, Abraham Zaken Baba Yamim. Abraham est vieux et il est Baba Yamim. Littéralement, il vient dans les jours. Les gens disent Baba Yamim, les gens vont dire Abraham vino, il vient. Avec tous les jours de sa vie, il peut tous les présenter. Il a fait quelque chose tous les jours de sa vie. Ça veut dire, pas comme nous on dit, tu dis, qu'est-ce que tu as fait, Seigneur? Bon, je n'ai rien fait. n'existait pas chez Abraham Avinu qu'il n'ait rien fait. En fait, tout, il remplissait les jours. Yamim, il vient avec tous ses jours.
Il dit ça pour Sarah aussi.
Sarah, elle était aussi un jour plein. Hachem Berach est Abraham Bakol. Hachem a béni Abraham avec tout. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi cette introduction? L'introduction de ce chapitre-là, c'est pour convoquer son Eliezer et lui faire jurer qu'il va aller chercher une femme pour Yitzhak dans la famille d'Abraham. Et donc, ici, il s'agit, le Nilonetiv, pourquoi le verset nous raconte qu'il est vieux, avant, au début de cette paracha? C'est parce que ça concerne évidemment le sujet de ce chapitre. Ce chapitre, il faut bien dire que si Abraham, si on nous dit qu'il est vieux, c'est parce que l'ulézé lo yamet sabela avdo. Si ce n'était qu'il était vieux, il n'aurait pas donné cet ordre à son serviteur, il serait allé lui-même chercher une femme pour Yitzhak. Pourquoi il délègue Eliezer? Abraham Avinu, il avait l'habitude de faire les mitzvot le plus vite possible, tout seul, etc. C'est une mitzvah de marier son fils. Ici, ce n'est pas seulement la mitzvah de marier son fils, mais il s'agit d'assurer le futur. Assurer les générations qui vont reprendre l'héritage d'Abraham, c'est de ça qu'il s'agit. Comme il était vieux, Baba Yami, vous ne pouvez pas y aller tout seul. Hachem Berach Avraham Bakol. Encore une autre raison pour laquelle il n'est pas allé en personne chercher une femme pour son fils. Mishum Shayu Asakav im Kol Adam. Qu'il était en fait en train de négocier, enfin de parler avec tout le monde. Zeba Beshoel Binyane Emuna, Zeba Benit Palel Alav. Comme c'est marqué dans le Vatra. C'est marqué dans le Vatra que Abraham Avinu avait un collier sur lequel, au bout duquel il y avait une perle, une margalite. C'est en fait, lui, on dit Margalit, mais Rabbi Shimon Bar Yochai dit Even Tova Haïta Tuya Betsavaro Shel Abraham Avinu. Il y avait une belle pierre qui était suspendue d'Abraham Avinu. Kol Chole Aroe Oto Miyad Mitrape. Une espèce de pierre magique. Tous les malades, en regardant cette pierre-là, ils guérissaient. Donc Abraham, littéralement, il ne pouvait pas partir. Il était le médecin de l'endroit, il ne pouvait pas quitter. Alors, en fait, le Netziv, il ramène une chose assez intéressante. Il dit, il y a une dracha, dans le Midrash Rabbah, c'est marqué qu'il a envoyé Eliezer à Moshel Bechol Asherlo, que Eliezer qu'il était Moshel, c'est-à-dire il avait la haute main sur tout ce qu'avait Abraham, toutes les possessions d'Abraham. Et Chazal disent, ça veut dire quoi? Il était Shalit Beyitzro Kemoto. Il maîtrisait son Yitzhara exactement comme Abraham maîtrisait le sien. Alors lui, il dit, l'évangile dit, l'Ikhora Tamoua. A priori, c'est un peu surprenant quand même. Est-ce que le Eved était vraiment au même niveau que son maître? Eliezer était vraiment l'alter ego d'Abraham. Le problème, c'est, enfin, la vérité, c'est que le Yetzara du Eved n'était pas le même que le Yetzara de. Il était cholette, mais pas sur le même Yetzirah. Ils n'avaient pas les mêmes problèmes. Les problèmes que Abraham se posait n'étaient pas les problèmes qu'un Eved, fût-il la Chavruta d'Abraham Avinu, se pose. Abraham Avinu est un assis, un manig, et ador. Abraham Avinu, c'était un prince et dirigeait la génération. וזה אופן עלו לאפילו צדיק גמור ליפול ברשת הכבוד והמשגע בין אדם לחברו. Quand on est en position effectivement de diriger tout le monde, même un tzadik peut tomber dans le piège de la recherche du kavod et de effectivement Amishge ben Adam la Chavero. Dans ben Adam la Chavero, on peut faire des fautes. Comment c'est Katafti, mais c'est faire de il a écrit sur Moshe Rabbin. Mishumachi, Ktiv de Be Avram Avinu, Aïta Bracha, chez Shalat Beitzro Bakol. Marqué, d'ailleurs, Avram Bakol, ça veut dire, il était cholette dans tout, dans son Yetzara. Avec son Yetzara, il était cholette, il maîtrisait tout. C'est-à-dire, Bidvara bim kol adam. Dans sa relation avec tous les hommes, il maîtrisait. Comme on dit comme on dit dans la tfila à la fin de la Shmoneh Esreh, on dit, Benafshi ki afar la kol tiye. Que mon âme soit comme de la poussière. Tout le monde. C'est-à-dire que je m'enorgueillisse pas, que je sois toujours plus bas que tout le monde. De peur que je. On orgueillisse. Aval gabé à Evet, mais sur le Evet c'est marqué à Moshe bechol asher lo, pas bakol, kol asher lo, c'est-à-dire le cholet beitzro. Le maché à Nogéa, Afne Nafcho, la chair l'eau. Les choses qui le concernaient directement, là-dessus, il maîtrisait complètement. Vignané, Tahava, etc. Aval Davar Klali, Loyalo. Il n'avait pas de dimension universelle, dimension politique, comme Abraham, avec d'autres gens. Voilà ce qu'ils disent. Cette idée que quand quelqu'un est au pouvoir, alors même le tzadik gamour, il peut tomber dans les filets de la recherche de kavod et dans la façon de traiter l'autre. J'ai entendu une semaine, en Israël, il y avait le plus grand avocat du pays, Weinroth, un avocat israélien, qui est Nifta. Sven Roth, il a eu une trajectoire très particulière. Il a étudié à Ponyvesh sous Shmuel Rodovsky, qui considérait comme son maître jusqu'à la fin de ses jours. Il parlait toujours, il le citait tout le temps, Mori, le Rabbi, etc. C'est un avocat, évidemment très froum, qui étudiait tout ça. Et il était. Toujours l'avocat des Yeshivot aussi, mais il était l'avocat de Netanyahou était l'avocat de tous les grands personnages du pays, quasiment. Et bon, c'est quelqu'un qui était une droiture absolument reconnue par tout le monde. Et tout à coup, on a sorti un truc, corruption, contre lui. Il était accusé. Ça lui a mis 2 ans à sortir de... avec les retards de la... Quelqu'un lui a demandé, un intervieweur lui a demandé comment tu prends ça, là, ce qui t'arrive, là, qu'on t'a accusé, pendant 2 ans, tu étais accusé, tu as dû te battre, etc. Alors il a dit, j'ai pensé que c'était de ma faute, c'était une punition. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter une chose pareille? Il dit, quand on est avocat, alors, moi j'avais des dossiers, c'est truc contre machin, versus contre machin. Donc, tu es d'un côté et tu défends ce côté contre quelqu'un. Il dit, c'est impossible de ne pas, souvent tu sais beaucoup de choses sur ce quelqu'un contre lequel tu dois te... de rester suffisamment droit, finalement, pour qu'il n'y ait pas de ton de mépris quand je lui parle, et de ne pas, de pas parler trop fort, de ne pas l'accuser trop, plus que c'est nécessaire, etc. Et c'est presque impossible que je n'ai pas fauté dans ce domaine-là. Et donc, comme j'ai fauté dans ce domaine-là, alors je suis puni par ce même domaine, en quelque sorte. On m'accuse aussi. C'est exactement ce que... Ici, c'est... Il y a des positions dans la vie où c'est difficile de ne pas transgresser à un certain niveau le respect avec le respect des autres. C'est sûr que quand tu luttes contre quelqu'un, c'est... Bon, peut-être tu as tendance à... Tu as peut-être des paroles trop dures, ou des... etc. Tu défends ton client, donc... Même si, effectivement, tu fais attention, même en faisant attention, c'est presque impossible. Donc c'est sûrement pour ça que ça m'est arrivé. Puisque, en plus, ça avait l'avantage d'être un petit peu mida kelegen mida, c'est-à-dire mesure pour mesure. On sait que les sanctions, HM, elles sont mesure pour mesure. On l'a attaqué, on l'a accusé, il s'est retrouvé en position d'accusé, comme les gens dont... Il pensait qu'éventuellement il était aussi accusé qu'il les avait peut-être traités un peu trop durement. Il n'était pas juge, mais mon avocat, il n'aura peut-être pas parlé avec tout le respect qu'on doit à quelqu'un, même si c'est quelqu'un de pas net, etc. Mais toi, tu n'es pas le juge. Quoi. J'ai pensé, quand je disais ça, je me suis dit, c'est ce que disait Reinhold lui-même. Alors il appelle son serviteur et il lui dit, il le fait jurer. Il le fait jurer au nom de jure par Hachem, Dieu du ciel et de la terre, que tu ne prendras pas une femme pour mon fils parmi les Cananéennes. Cananéennes parmi lesquelles nous vivons, je vis. Mais que tu iras bien dans mon pays, dans ma patrie, là où je suis né, tu iras là-bas et tu prendras une femme pour mon fils Israël. Le Eved, il a commencé à dire, mais qu'est-ce que je fais? Peut-être elle ne voudra pas venir. Je choisirai une femme, mais est-ce que tu es sûr qu'elle voudra venir de Mésopotamie en Eretz Kenan, totalement en Israël, elle ne voudra pas venir. Alors, si elle ne veut pas venir, est-ce que je vais ramener ton fils? Elle voudra peut-être l'épouser, mais elle veut rester en Mésopotamie. Est-ce que je vais amener Yitzhak là-bas? Alors, Abraham lui a dit, « Shamer lecha pen tashiv, et beni shama. » Bien attention de ne pas le faire, ramener ton fils. Hashem Elokei Hashamayim Asher Lakachani Bet Avi Meretz Molati, Hashem, le Dieu du ciel qui m'a pris de la maison paternelle de mon pays natal, qui m'a parlé, qui m'a juré qui donnerait à ma descendance ce pays de Tzkunan, il enverra un malach, son malach devant toi, et tu pourras prendre une femme pour mon fils de là-bas. Et si vraiment la fille ne veut pas te suivre, alors tu es libéré de ton serment. Mais en tout cas, tu ramènes, tu n'amènes pas mon fils là-bas. C'est intéressant parce que il lui donne des directives concernant son fils. Son fils, il avait 37 ans le jour de la Akeda. On est tout de suite après la Akeda. Il a 37-38 ans. Et c'est Yitzhak Avinu. Yitzhak, qui sait qu'il n'a pas le droit de sortir de l'Eretz Israël? Ça veut dire, je l'amènerai. On a l'impression que c'est un petit gosse de 3 ans et que, s'il faut, je mettrai sur mon chameau avec un réhausseur, etc. Et puis on l'amènera là-bas. Il a 37 balais, je veux dire. C'est incompréhensible, c'est-à-dire que il faut imaginer que la parole d'Eliezer, c'est dans l'hypothèse où Abraham n'est plus là, que la parole d'Eliezer serait considérée par Yitzhak comme la parole de son père, et qu'il allait obéir, mais il sait qu'il n'a pas le droit de sortir de la salle puisqu'il a une Ola. Il ne va pas sortir. Difficile de comprendre comment se fait-il que qu'est-ce qu'il veut Abraham en le faisant jurer qu'il ne ferait pas ci? Et s'il va chercher une cananéenne, il sera qu'il va accepter l'épouse d'une cananéenne? Jure-moi que tu ne vas pas prendre pour mon fils une cananéenne. Il sera qu'il est. Qu'est-ce que ça veut dire? Remarquer ici comment il ne va pas le transporter au corps défendant de d'Yitzhak quand même. Je veux dire que c'est non, au moment où Eliezer il va donner des kiddushin à cette fille au nom de comme Shliach d'Yitzhak, alors qu'ils ne disent pas que c'est Kiddushin à condition que Yitzhak puisse venir, et que par conséquent si ensuite il ne veut pas venir, alors il y a un Kiddush Hashem, il roule de Shina Mitnor, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait son, il n'a pas respecté la condition. Pour savoir si c'est devenu noir en réalité, il n'y a pas de kiddushin chez les devenus noirs. On dit que parce que ça allait être la fille, la femme d'Yitzhak, alors on a fait comme on a fait des kiddushin. Donc là on voit. On apprend de cet endroit-là, on apprend une partie des lignes de Kiddushin, mais aussi. C'est étonnant parce que normalement, on n'apprend rien de d'Alachique, de l'Ibné Noir. C'est pas vraiment. C'est l'Ibné Noir, mais c'est nos ancêtres. Ils se conduisaient déjà comme on allait devoir se conduire, en fait. La question c'est, en quoi est-ce que les gens d'Aram, de Phasdim, etc., là-bas, pourquoi on considère que ces gens-là sont meilleurs que les Cananéens? C'est des idolâtres, les autres sont des idolâtres. Pourquoi privilégier ces idolâtres-là plutôt que les idolâtres cananéens? Lui, ici, le Ramamon qui veut dire, c'est dans les drachot du Ran, en fait, à Michel, veut dire que les habitants d'Aram étaient idolâtres, eux aussi. Mais Abraham connaissait le fond de leur caractère, il savait qu'il était saint et pur, et que chez eux, l'idolâtrie n'était qu'un égarement intellectuel, susceptible d'être corrigé. Mais les habitants de Canaan étaient corrompus moralement. Ils étaient pervertis jusqu'au fond de leur âme, et Abraham ne pouvait nourrir aucun espoir de trouver parmi eux une femme pure, pudique et innocente, qui pût offrir à son fils le trésor de la noblesse des sentiments et des mœurs. Ça, l'idée, c'est Abraham pensait qu'ils étaient idolâtres par erreur. Il y a une différence entre être idolâtre par erreur et idolâtre parce que l'idolâtrie permet toutes les perversions. Non, l'idolâtrie, parce que nous, on a toujours l'impression que l'idolâtrie, c'est les gens, des chrétiens qui se prosternent devant une statue. C'était pas ça le problème. Le problème, c'était les mœurs qui accompagnaient l'idolâtrie. C'est-à-dire, tout était complètement corrompu, tout était fourvoyé. Il n'y avait aucune valeur. Mais il y avait des endroits où ça n'était pas essentiel, en fait. C'est-à-dire, c'est un peu comme dans Shira Shirim, où là, elle dit « Shora Ani Nava ». C'est vrai, je suis noir. Elle parle des filles noires, elle dit, elle représente Israël, elle dit « Je suis aussi noir ». Mais le noir, chez moi, il n'est pas essentiel. Le noir, il est venu parce qu'on m'a exposé au soleil, etc. Mais d'origine, je suis blanche. Donc vous êtes noir à cœur, en quelque sorte. Et donc, moi, ça veut dire. Les vicissitudes ont fait que le clan Israël, des fois, il est difficile à distinguer des autres peuples. En quoi est-ce qu'on est mieux que les autres? Ce qu'on dit dans Tirachet. Je suis noir aussi. Mais mon noir, à moi, il est accidentel, en quelque sorte. C'est parce que j'ai fait des fautes, mais on dit que vous êtes noir. Ça veut dire, vous, les fautes, elles ne sont pas accidentelles. Ce que vous faites, c'est parce que vous le recherchez. Vous recherchez cette perversion, vous recherchez toute cette... toutes ces pratiques. Alors, Eliezer va aller là-bas, et il ne sait pas comment faire, comment je fais pour trouver la fille. Alors, il va inventer un test. Et on va lui reprocher, parce que le test qu'il a inventé, en quelque sorte, ça ne permettait pas de garantir, par exemple, que la fille n'était pas handicapée, ou etc. Il dit au Shal, chez l'Okerogen, il a demandé comme il ne faut pas demander, mais la réponse qu'il a eue, elle était Kerogen, c'est la bonne réponse, elle a donné la bonne réponse. La question était mauvaise, mais la réponse était bonne. Qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a donné à boire. C'est ce qu'il lui a dit, c'est ce qu'il a mis comme test. Celle à laquelle je demanderai de m'abreuver, et qui abreuvera aussi les chameaux, c'est celle-là, il a-t-il dit à Hachem, que tu as destinée à Yitzhak. Elle pouvait être... plein de choses, cette fille. Et finalement, c'est un test qui montrait... Enfin, la façon dont elle a fait la chose montrait deux choses. Montrait d'abord qu'elle était généreuse. C'est, il lui a demandé, lui, un homme, qui pourrait aller puiser tout seul. Et quand elle a puisé, il lui dit, donne-moi de l'eau. Elle lui dit, bois. Et puis ensuite, elle dit, mais je veux aussi abreuver tes chameaux. Et ça, c'est un coup de génie, en fait. Parce que, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais le problème, c'était qu'il abuse de son eau. Mais elle ne sait pas qui il est. Ce type-là, il est peut-être malade, tout ce qu'on veut. Donc, il ne faut pas boire l'eau dans laquelle... L'eau qu'il a bu, lui aussi. Mais si elle verse le reste de l'eau par terre... C'est l'humilier, lui. Alors son truc, c'était de donner la boire aux chameaux. Et après les chameaux, c'est normal qu'elles récurent sérieusement les clés qui ont servi d'une manière ou d'une autre à abreuver les chameaux. Il n'y a pas de problème, comme ça elle est sûre de ramener de l'eau propre à la maison. Et lui, il a été abreuvé. Ça veut dire qu'elle est de précède et de l'intelligence. Et puis il y a un souci, effectivement, de ne pas humilier les gens. Donc, elle a donné une réponse parfaite. Et lui, il n'a pas de doute. C'est marqué qu'avant toute chose, il lui a tout de suite donné des cadeaux. Et après, il lui a demandé qui tu es. Tu aurais pu être une fille qui n'était pas de la famille. Tu aurais pu être une bergère. On a loué les services. De la chance. Finalement, elle sait qu'elle était Rivka. Donc, bon, alors, il y a le... C'est des gens très bien, ces gens. Il ne faut quand même pas oublier que quand ils ont vu toutes les richesses dont il était porteur, ils ont décidé de le tuer. Ils ont voulu l'empoisonner. Donc quand il est entré et qu'on lui a donné à boire, ils ont mis du poison dans la tasse d'Eliezer. Le Midrash dit que c'est Gabriel, l'ange Gabriel qui est venu et qui a interverti la tasse d'Eliezer avec celle de Bethuel, le père. C'est pour ça que après, c'est Laban qui parle, le frère qui parle. Et le père, on n'en parle plus parce qu'il est mort. C'est lui qui a vu le poison. D'abord, là, ils ont compris que c'était pas si facile. Ils ont bien compris, quand même, Laban a bien compris que. Ok. Mais il faut faire attention à ce bonhomme. Quand on essaie de l'empoisonner, c'est nous-mêmes qui mourrons. Et bon, et finalement, quand ils disent à Rivka. Il y avait une petite fille, on ne sait pas vraiment quel âge elle a. Parce que personne ne le dit. C'est écrit à la fin de la paracha précédente. On a dit à Abraham que Milka, la femme de Nahor, avait enfanté elle aussi, et qu'elle avait une descendante qui était Rivka, mais on ne sait pas du tout de quand datait l'information. Abraham l'a su à ce moment-là. Même peut-être que la fille avait déjà 15 ans. On ne sait rien. Parce qu'on compte après, comme si elle était toute. Elle venait de naître quasiment. Après, on dirait qu'elle a 3 ans. Mais elle avait déjà 15 ans. On ne sait pas. Pas marqué dans le texte. Laban et la mère, ils ont pensé que. Jamais une jeune fille va partir avec ce bonhomme. Et lui ont demandé, tu vas partir avec ce type? Alors, elle a dit, oui, je pars avec lui, même si vous ne voulez pas, je pars quand même. Et elle est partie avec lui. Et malgré tout, il y avait des bruits, est-ce que Eliezer, il n'a pas tenté un peu d'abuser d'elle, etc. Hazal, il ne laisse rien passer. Il était avec elle pendant tout le trajet de retour, quoi. Bien sûr, il n'était pas seul, parce que Eliezer, il ne s'est pas promené tout seul. Mais pendant tout le temps, il n'y a pas bon. Il y en a qui voulaient dire qu'Eliezer, il aurait essayé, ou... C'est pas très clair. En tout cas, elle est arrivée. Elle arrive et elle voit Yitzhak. Et de loin, elle le voit et elle est effrayée. Intéressant, notre première rencontre, ça produit de l'effroi. Elle dégringole de son chameau. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu un bonhomme de loin. Elle a dit, oui, c'est ton futur mari. C'est écrit dans le Zohar que Yitzhak Avinu, normalement, quand on prie, nous, on n'a pas le droit de prier avec les mains au-dessus de la tête. C'est aussi dans le Birkat Kohanim. Les Kohanim, ils n'ont pas le droit de mettre les mains au-dessus de leur tête. Et les mains à la hauteur des épaules, les mains quand ils bénissent, mais pas au-dessus de la tête. Parce que seuls les très grands personnages ont le droit, dit le Zohar, de prier comme ça. C'est Moshe Rabbeinu qui prie sur la montagne dans la guerre contre Amalek. Bon, il a les mains au-dessus et il est soutenu par René Chou. C'est Moshe Rabbeinu. Le Zohar dit que Yitzhak Avinu priait comme ça. Alors Rivka connaissait le Zohar. Alors quand elle a vu qu'il priait comme ça, elle était effrayée. J'ai compris que ça devait être obligatoirement un très grand homme. Et c'est ça qui l'a effrayé. Je vais me marier avec un bonhomme qui prie avec les mains.
Comment ça se fait qu'elle connaissait le Zohar déjà à cet âge-là?
Une façon de parler, quoi. Non, le Zohar, il met ça en scène comme ça. Comme si elle savait le Zohar, ou bien comme si, peut-être qu'à ce moment-là, c'était quelque chose de connu. Peut-être que c'était connu que il n'y avait que des très grands personnages. Je ne sais pas qui, dans le voisinage de Betuel et Lavan, etc., aurait prié comme ça. Peut-être. Peut-être qu'il y avait là-bas des chamans, ou je ne sais pas quoi, qui priaient comme ça. C'est rien. Donc, en tout cas, elle l'a compris. D'après Zohar, elle aurait compris que c'était un très grand bonhomme, et c'est pour ça qu'elle était prise, parce que tout le monde ne comprend pas du tout qu'est-ce qu'il y a d'effroyable d'avoir un homme. Elle savait qu'elle allait épouser un homme, mais pas un petit enfant. Ou alors, c'est la différence d'âge qui l'aurait impressionné. Elle a quand même compris que s'il a 37-38 ans, et que même si elle en a 15, c'était quand même, c'est une jeune fille, et lui... Il y a un homme. Est-ce que ce serait ça?
En agissant comme elle a agi, c'est-à-dire en allant à sa femme, elle a compris qu'elle intervient dans quelque chose qui se prend pour l'avenir de l'Amissa. Elle savait très bien que c'était.
Oui, pourquoi elle est effrayée? Pourquoi elle tombe? Elle glisse. Même si elle n'est pas tombée, elle est jugée nécessaire de descendre, elle ne pouvait pas rester.
Elle est effrayée par l'ampleur du travail qu'elle doit faire. Mais pourquoi elle n'a pas été voir? Parce que Abraham, il habitait à Beersheba. Et Beersheba était quand même un microcosme autour de lui, autour de sa personne. Pourquoi il n'y avait personne autour de. Pourquoi il cherchait une femme alors?
Ça s'appelle encore Knan, c'est encore les Cananéens. On sait que les Cananéens étaient pourris. Il n'y avait rien à tirer.
Oui, mais je voulais dire que vous avez dit ça entre les Cananéens et les Cananéens, pour la différence de l'approche de la Zara. J'ai pensé que ça pouvait donner une réponse à Hachem quand il disait Elo, Belo, Chauter de la Zara. Vous n'avez pas besoin de dire, mais eux, je ne sais pas, qui n'est pas une réponse, comme vous dites, qui est une réponse con. Enfin, qui. Ouais, je peux dire, oui, mais. Enfin, je peux dire, mais chez eux, les juifs, on a besoin d'un, c'est accidentel. Je pense à ça au moment où vous dites ça, c'est quelque chose, ouais, c'est un accident, mais c'est pas, ils ne sont pas profondément pourris.
Non, mais si tu veux, le problème. En tout cas, si tu veux, d'abord, ça veut dire que la différence n'était pas visible même aux yeux des malachim.
Oui.
Donc, ça veut dire que la différence est très fine. D'accord ? Parce que les malachim, ils voient très fin. Pour dire qu'elle n'était pas perceptible par les malachim, c'est un peu surprenant. Lui, il parle du passage de la mer. Les anges ont dit, mais pourquoi tu sauves cela et pas cela ? Les juifs, c'était aussi des idolâtres. Les juifs qui sortent, c'est des égyptiens. Mmh. Égyptiens, enfin. C'est des juifs égyptiens. Mais ça fait 210 ans qu'ils sont en Égypte. Et au moins 80-90 ans qu'ils sont esclaves. Vraiment dur. Esclavage dur. Donc, leur idolâtrie, si on veut, n'était pas si superficielle. Et en plus, on peut dire que l'idolâtrie égyptienne était une idolâtrie très intellectuelle. Parce que je vous ai souvent parlé de la différence entre l'idolâtrie cananéenne et l'idolâtrie égyptienne. Parce que la Torah elle dit « Vous ferez ni que maaser es Mitzrayim ha-shaftem, ni que maaser es kenan, asher ani mevi etchem shama. » Vous ne ferez pas. Ni l'idolâtrie cananéenne, ni l'idolâtrie égyptienne. La différence, c'est que en Égypte, on n'a pas de souci de parnassa. Ils ont le Nil, les crues du Nil leur assuraient la subsistance. Avant le barrage d'Assouan, il y avait régulièrement des crues du Nil qui étaient des crues qui étaient dévastatrices. D'un autre côté, ça amenait du limon, etc. Et donc, la terre était extrêmement fertile. Alors que les Cananéens, c'est Eretz Israël. Eretz Israël n'a rien. Il faut toujours demander la pluie. Et donc, ils ont développé chacun l'idolâtrie qu'il fallait. C'est-à-dire, les Égyptiens n'ayant pas besoin d'idoles pour assurer la subsistance, ils se sont inventés un ciel d'idoles. Des idoles un peu spirituelles. Et les Cananéens, ils ont fait une idolâtrie technologique. Ils avaient des dieux qui leur assuraient la subsistance. Moi, elle dit, c'est un Midrash qui dit que sur chaque sillon en Canaan, il y avait plusieurs dieux qui veillaient. Alors, il y avait le dieu du soleil, il y avait le dieu de la pluie, le dieu de l'engrais, etc. Ils se servent pour chaque sillon. C'est une idolâtrie technologique qui permettait d'avoir à manger. Et donc, leur idolâtrie aux Cananéens, elle était comme ça. C'était une idolâtrie essentielle parce que c'est ce qui permettait de manger. Donc, ce n'était pas des pensées un peu. Mais le ciel égyptien était peuplé de divinités. Chazal disent que si les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis encore avec l'idolâtrie égyptienne dans leur tête. Ils pensaient encore que le ciel était peuplé d'idoles, enfin de divinités. Hachem a dû ouvrir le ciel pour leur montrer qu'il n'y avait rien dans ce ciel. On disait Gagarine, pas trouvé. Ouais. Il n'y avait rien dans le ciel donc, de tout ce que les Égyptiens disaient qu'il y avait. Il fallait leur montrer que ce n'était pas vrai. Il faut ouvrir le ciel pour ça. Donc, si vous voulez, ce n'est pas du tout les mêmes. L'idolâtrie, elle dépend des pays, elle dépend de ce dont on a besoin. Les idoles, elles sont censées être efficaces. Donc, on attend d'elles qu'elles nous donnent ce qui nous manque. Enfin, les gens attendent que les idoles leur donnent ce qui manque. Donc les Égyptiens, ils attendaient les idoles pour qu'on prenne le monde. comprendre comment fonctionne le monde. Et les Cananéens, ils avaient besoin que leurs idoles leur assurent la subsistance. Si les Mésopotamiens, je ne sais pas quelle idolâtrie ils avaient, un arabe, semble-t-il, c'était assez riche. Laban, il avait des propos assez riches. Il y avait à manger. Voilà, ça va être là.
Merci.
On va un peu trop vite hein, dans Moïse. Les parachas sont tellement pointus, ça veut dire qu'il y a tellement de choses dans chaque paracha. Après, il y a d'autres parachas par la suite qui sont beaucoup plus. On peut prendre son temps. Mais celle des parachas de Moïse, c'est extrêmement pointu. Avec Abraham, il est déjà à plus de 1000 ans depuis la création. Et là, ça défile à toute vitesse. Quoi.
On peut comprendre aussi le choc, même si la deuxième nouvelle est meilleure que la première. Mm-hmm. On peut comprendre qu'il y a un moteur, que ça puisse.
Bonsoir. Oui. Oui.